catégorie, ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Vous aurez reconnu, sans doute, au moins pour les plus anciens d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge, cette réplique tirée du film « Le bon, la brute et le truand ». Le monde se divise en deux catégories. Tout au long de ce film, cette construction revient comme un refrain. Et elle m'est revenue, c'est à ça que j'ai pensé en étudiant le texte qui servira de base à notre prédication ce matin. Alors nous lirons dans la première épître aux Corinthiens, Elliot, merci. Les premières épîtres aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 17 à 25. Un Corinthiens, chapitre 1, verset, à partir du verset 17. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit : je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le débatteur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà quelque temps que nous avons commencé notre étude de la première épître aux Corinthiens. Vous commencez maintenant, avec les présentations que je fais à chaque fois, vous commencez à connaître cette église de Corinthe, les problèmes qu'elle rencontre, les raisons qui conduisent Paul à lui écrire. Pour les Corinthiens, le monde se divise en deux catégories. Il y a la sagesse et le reste. Il y a ceux qui sont sages et ceux qui sont fous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture du texte, mais les termes sagesse et folie reviennent très souvent. Et vous voyez à l'écran l'illustration visuelle de cette répétition. En bleu, vous avez, ouais, ça se voit à peu près. En bleu, vous avez toutes les fois où il est fait mention de la sagesse, soit avec le nom, soit avec l'adjectif sage. Elle est mentionnée 10 fois en 9 versets, c'est pas mal. D'autant plus qu'il y a aussi des synonymes que j'ai mis en bleu clair. Intelligence, scribe et débatteur, qui sont deux types de personnages sages. Force, mais aussi puissance. En tout, ça fait 18 mentions de la sagesse ou de l'un de ses synonymes dans ce court passage que nous avons lu. C'est une preuve de l'intérêt que portent les Corinthiens à la sagesse, et c'est de ça dont veut leur parler Paul. En orange, j'ai mis le contraire de la sagesse, la folie. Il y a 5 mentions de la folie dans notre texte et 2 synonymes utilisés, la faiblesse et cause de chute. La sagesse, c'est ce que recherchent les Corinthiens. La sagesse, on sait à peu près ce que c'est. C'est une connaissance des choses, une intelligence qui fait qu'on comprend le monde qui nous entoure. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils appellent la sagesse du langage. On a ça au verset 17. L'expression « sagesse du langage » désigne non seulement le contenu de la sagesse, c'est-à-dire les idées que le sage a développées, sa compréhension du monde, mais aussi le langage, c'est-à-dire la forme, la façon dont il s'exprime, dont il exprime ses idées. La façon de parler, l'éloquence, avait une grande importance à Corinthe au 1er siècle. Celui qui parle bien avait un grand pouvoir, celui de convaincre. Et même si ses idées ne sont pas toujours à la hauteur, ne sont pas toujours bien construites, l'éloquence rattrape beaucoup de choses. L'éloquence permettait de faire illusion et d'élever au rang de sage quelqu'un, même si ses idées étaient un peu légères. À Corinthe, pour les habitants comme pour les membres de l'Église, la sagesse est particulièrement prisée. Pour les Grecs, il s'agit de l'idéal à rechercher par-dessus tout, le principal sujet de fierté. Si tu es sage, tu es digne d'attention, digne d'exister. Mais si tu n'es pas sage, alors tu es sans intérêt, tu es méprisable, tu es fou. Il n'y a pas de milieu. Et les membres de l'Église de Corinthe pensent que la recherche de la sagesse peut très bien s'accommoder de la foi en Dieu. Ils espèrent que cette sagesse qu'ils connaissent, à laquelle ils sont initiés par le monde qui les entoure, ils espèrent que cette sagesse leur permettra de mieux connaître Dieu. Ils espèrent qu'elle pourra leur révéler des secrets, une nouvelle compréhension, une compréhension plus profonde de Dieu. Et certainement, il y a une part de vrai là-dedans, dans cette démarche. C'est important d'étudier, de réfléchir, de communiquer, de convaincre. C'est utile à l'Évangile. C'est donc pour mieux connaître Dieu que les Corinthiens cherchent à pratiquer cette sagesse du langage. Ils sont à la recherche d'une nouvelle compréhension qui leur permettra d'accéder plus profondément que par la croix. Si elle est particulièrement présente à Corinthe, Paul relève que la recherche de la sagesse est présente dans toutes les civilisations, même si elle peut prendre différentes formes. On retrouve ça au verset 20. Chez les Grecs ou chez les non-juifs, c'est la même chose dans le raisonnement de Paul, c'est au débatteur, c'est le débatteur, c'est celui qui est capable de construire un raisonnement, de l'exposer de façon brillante, de convaincre. C'est lui le sage. Chez les Juifs, chez eux aussi, il y a une figure du sage. Chez eux, c'est le scribe, c'est le rabbin, celui qui connaît la loi, qui la comprend, qui est capable de l'expliquer. Ainsi donc, les Corinthiens, comme leurs contemporains, recherchent la sagesse, espérant arriver à une compréhension plus profonde de Dieu, plus profonde que ce que peut leur révéler le message de la croix. Mais si Paul leur écrit, c'est pour leur rappeler que le monde se divise en deux autres catégories. Dieu et le monde. Et la différence entre les deux, eh bien, elle est dramatique. Car ceux qui suivent Dieu sont en route pour le salut, alors que ceux qui suivent le monde périssent à petit feu. Alors j'ai repris mes crayons de couleur pour faire apparaître l'insistance de Paul sur cette opposition entre Dieu et le monde. En vert, vous avez les fois où Dieu est mentionné, 9 fois, plus Christ, 4 fois, ça nous fait un total de 13 mentions de Dieu dans ce passage. Et en rouge, j'ai mis les mentions au monde. Le monde est en rouge rangé, et je fais aussi apparaître les synonymes, les humains, et aussi les humains catégorisés par Paul, juifs et grecs ou non-juifs. Ça fait 11 mentions au total pour le monde et le genre humain. Si Paul insiste tellement sur cette division entre Dieu et le monde, c'est qu'il veut rafraîchir la mémoire des Corinthiens. Il veut leur rappeler que Dieu et le monde, ça n'a rien à voir. Même s'ils sont en train de s'égarer dans la division, les Corinthiens n'ont pas tout oublié. Ils savent que le monde est pécheur, qu'il est coupé de Dieu. Ils savent que Dieu est la solution à tout, la direction à suivre, le but à atteindre. Même s'ils essayent de l'atteindre par de mauvais moyens, c'est ce but-là qu'ils recherchent. Aussi, Paul remet en perspective la sagesse. S'il y a une sagesse, s'il y a une intelligence, c'est auprès de Dieu qu'il faut la chercher. Car Dieu est tellement grand que même ce qui est folie pour lui reste plus sage que la plus grande sagesse humaine. Du coup, il invite les Corinthiens à réévaluer leur compréhension de la division du monde en deux catégories. Et finalement, s'il y a deux choses à distinguer, eh bien, ce sont certainement la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, nous en avons parlé, c'est une connaissance des choses, une intelligence qui fait que l'on comprend le monde qui nous entoure. C'est aussi parfois des apparences, un savoir-faire, tel que l'éloquence, qui font croire que la sagesse est présente. Mais si c'est Dieu qu'on recherche, si l'on croit qu'il est au-dessus de toute chose, alors c'est sans doute vers lui qu'il faut se tourner pour rechercher où se trouve la vraie sagesse. Alors la sagesse de Dieu, la sagesse selon Dieu, la sagesse pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Premièrement, Dieu sait que l'homme ne peut le trouver seul. L'homme ne peut pas trouver Dieu par ses propres facultés. Et ce n'est pas faute de lui en avoir laissé l'opportunité. Dieu laisse des pistes autour de nous qui mènent à lui. Il y a d'abord la création qui parle de lui, de son œuvre, et en la contemplant, l'homme devrait prendre conscience qu'il y a un créateur qui a fait tout ça, il devrait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et puis, il y a aussi la providence divine. La providence, c'est ce que Dieu nous donne, jour après jour. Jour après jour, Dieu fournit à l'homme ce dont il a besoin pour vivre, les ressources, la santé, le souffle de vie, et lui donne tout cela, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et il donne tout cela alors qu'il ne le mérite pas, alors même qu'il est pécheur, alors même qu'il devrait mourir de son imperfection. Mais le fait qu'il reste en vie, qui puisse poursuivre jour après jour, devrait lui faire comprendre que c'est par grâce qu'il vit et que ce Dieu grand qui a créé toutes choses n'est pas seulement grand, mais qu'il est aussi bon, qu'il est aussi grâce. La création, la providence, c'est cela, la sagesse de Dieu dont nous parle le verset 21. Sagesse de Dieu par lequel l'homme n'a pas réussi à trouver Dieu. Alors Dieu a donné un autre moyen de se faire connaître, et c'est la proclamation de la croix. Alors qu'est-ce que la proclamation de la croix ? La croix, c'est là où Jésus est mort. La croix, c'est accepter que je suis pécheur, que je suis séparé de Dieu, que Jésus-Christ est mort sur cette croix pour moi et pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Pour être réconcilié à Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ma confiance en lui, croire que je suis sauvé. C'est la proclamation que pour être sauvé, il n'y a rien d'autre à faire qu'accepter la croix de Jésus, accepter que cette croix est suffisante. La proclamation de la croix, ce n'est pas quelque chose à comprendre. C'est quelque chose à savoir. C'est un événement historique. Un jour, au premier siècle, Jésus est mort, puis il est ressuscité. Ça s'est réellement passé, c'est l'événement à connaître. C'est une information qui nous est transmise. On ne peut pas la découvrir par nous-mêmes, par notre raisonnement. Il faut que quelqu'un nous en informe. Quelqu'un doit me la transmettre, quelqu'un doit me la proclamer. Et cette information, il faut ensuite y répondre par la foi. Et lorsqu'on y répond par la foi, c'est là qu'elle agit. Et c'est pour cela que Paul dit d'elle qu'elle est puissance et non sagesse. Car là où la sagesse remplit la tête, ouvre notre intelligence, nous fait comprendre des choses, la croix agit avec puissance et elle transforme les vies. Il n'y a rien à comprendre. Personne à convaincre. La croix, c'est abdiquer devant Dieu, reconnaître que lui seul peut me sortir de mon état perdu. La proclamation de la croix, c'est Dieu qui, dans son amour, prend acte que l'homme n'arrivera jamais à l'atteindre, quels que soient les moyens qu'il fournira, quelle que soit son intelligence. Sa sagesse. Alors, Dieu vient et il lui tend la main. Et l'homme n'a rien d'autre à faire que la saisir. Et c'est bien ça le problème. Je vous lis ce qu'écrit Robert Somerville à ce sujet. La parole de la croix n'offre aux humains aucune raison de se glorifier, de se mettre en valeur. Loin d'être valorisante, elle est humiliante, puisqu'elle fait dépendre le salut non de la valeur de l'homme, de ses réalisations, mais d'un acte de Dieu. Pour celui qui a fait de la sagesse sa raison d'être, un tel message n'est que folie. Il renverse toutes les valeurs auxquelles les Grecs étaient attachés, la sagesse, la connaissance, la réussite sociale, la richesse. Si c'est compliqué pour les Grecs, il ne faut pas penser que les choses soient plus simples pour les Juifs. Même s'ils connaissent la révélation, même s'ils connaissent déjà Dieu, sa façon de procéder, ce n'est pas plus simple pour eux. Pour eux aussi, c'est une pure folie. Pour eux non plus, la croix ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Eux, les Juifs, ce qu'ils attendent, ce sont des signes, des miracles qui vont attester que Jésus est bien ce qu'il prétend être, le Messie, le Fils de Dieu. Mais si vous avez lu les évangiles, vous savez que les miracles de Jésus n'ont pas pu les convaincre. Alors, certains ont pu croire au miracle, Mais quand ils ont vu la croix, là, c'était fini. La croix, c'est une infamie, une malédiction, c'est la mort indigne. Jamais le Messie glorieux, celui qui va délivrer Israël, jamais le Messie n'aurait pu vivre une telle déchéance, un tel châtiment. Aux Corinthiens qui pensaient trouver mieux que la croix, qui pensaient que d'autres voies plus dignes et plus méritantes permettaient d'arriver à Dieu, Paul rappelle qu'il n'y a rien d'autre que la croix. Et la croix, elle ne convient à personne. Ni aux Juifs qui attendent le Messie glorieux et qui veut des preuves visibles pour croire, ni aux Grecs qui ne peut accepter que ce qu'il comprend intellectuellement et qui veut des preuves rationnelles. La croix n'apporte rien de cela, mais la croix amène le salut à ceux qui croient, tandis que ceux qui la refusent sont sur la voie de la perdition. Pourquoi Paul écrit-il cela aux Corinthiens? Je veux dire, pourquoi maintenant? Ils sont en conflit, il essaye de les tenir ensemble, d'éteindre les conflits. Pourquoi parle-t-il de la croix? C'est là qu'on regarde au premier mot du premier verset de notre passage. Car. Les mots de liaison, c'est très important pour comprendre le texte biblique. Et ici, car indique que nous sommes dans la suite du raisonnement précédent, celui que nous avons lu la semaine dernière. Souvenez-vous, les Corinthiens se divisent, se rangeant derrière des maîtres à penser qu'ils s'approprient, des maîtres qu'ils trouvent plus sages. Paul veut faire cesser ces divisions. Et il leur a donné un premier argument dans ce sens, pour cesser de se diviser. Le Christ qu'ils veulent suivre est un. Il n'est pas divisé. Aussi, s'ils veulent être en lui, ils doivent montrer leur unité comme Christ est unité. Ça, c'était la première raison qu'il leur donne. Et là, il leur donne une deuxième raison. Une deuxième raison pour mettre fin à ces divisions. C'est que chercher un maître à penser qu'il soit plus sage que les autres, mais ça n'a aucun sens devant la croix. En matière de salut, il n'y a rien à penser, rien à réfléchir. Il suffit d'accepter par la croix de Jésus. Et donc les conflits qu'il y a entre eux n'ont pas de fondation, ils n'ont pas lieu d'être. Les Corinthiens étaient tentés d'adopter les pratiques du monde qui les entoure. Quand on croit en Dieu, on réfléchit à sa parole, on cherche à comprendre ce qu'il attend de nous. Mais là où il dérape, c'est quand il quitte cette recherche de compréhension de Dieu pour rechercher un meilleur moyen d'accéder à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen pour accéder à Dieu, c'est la croix. Et c'est pour ça que Paul tire la sonnette d'alarme. « Si vous voulez suivre Dieu, dit-il, il faut dire adieu à vos prétentions mondaines, à votre soif de reconnaissance, et il faut le suivre selon les règles qu'il fixe, c'est-à-dire la folie de la croix. » Maintenant, la question qui nous intéresse, qui devrait nous intéresser, qu'est-ce que Paul a à nous dire par ce passage à nous, chrétiens du XXIe siècle? Je pense qu'il y a trois choses que nous pouvons tirer de ce passage de la lettre de Paul. Tout d'abord, Paul nous rappelle les règles émises par Dieu, à nous aussi. Et c'est toujours bon à prendre. Il est toujours bon de réentendre la possibilité de salut que Dieu nous offre par la croix de Jésus-Christ. Il est toujours bon de préciser, de nous rappeler que c'est le seul chemin d'accès pour aller à Dieu. Mais, deuxième point, il nous interpelle également quand le monde peut nous contaminer. En effet, sous certains aspects, notre monde n'est pas si éloigné de la Grèce du 1er siècle. Chez nous aussi, on aime réfléchir, on aime débattre. On trouve chez nous des groupes de pensée, des partis, des clubs, des syndicats, des associations qui s'affrontent sur des idées. Je l'évoquais la semaine dernière, je suis frappé de voir sur Internet combien on s'écrase les uns les autres à grands coups de certitude. Que ce soit pour la politique, pour l'économie, pour l'immigration, la santé, l'alimentation, le sport, que sais-je. On croit que le groupe dont on fait partie a toujours raison. Et alors, on balance à grands coups de copier-coller ses raisonnements sur des forums ou par email, sans égard pour ses interlocuteurs. Je parle d'Internet parce que cette pratique est exacerbée, mais ces attitudes se voient dans la vraie vie. Et elles peuvent aussi rentrer dans l'Église. On peut choisir un cheval de bataille secondaire au vu du salut en Jésus. On peut choisir les dons de l'esprit, la forme du culte, la destinée d'Israël, l'interprétation de l'Apocalypse. Les sujets ne manquent pas. On peut choisir un camp, une école de pensée, et derrière, on peut partir dans un dialogue de sourds avec des frères et sœurs, répétant des arguments entendus d'une façon proche de ce que j'imagine avoir été les discussions de l'Église de Corinthe au 1er siècle. Mais je crois qu'un troisième danger nous guette également, un troisième enseignement que Paul nous apporte et que nous devrions entendre, c'est le danger de vouloir être reconnu par le monde. Aujourd'hui, la société française est relativement déchristianisée. Ils sont nombreux ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, qui ne connaissent rien au récit biblique. Et alors, du coup, ils regardent nos églises avec curiosité et avec intérêt. Je suis bien placé pour le savoir. Vous le savez, j'ai quitté récemment un emploi séculier pour devenir pasteur. Et ce changement de vie a été la source de bien des conversations intéressantes avec mes collègues. Parfois, c'est la religion qui attire, la spiritualité. Le choix d'aller dans une église, de s'y investir, c'est la recherche de la paix intérieure qui fait défaut à nos contemporains et qui leur fait envie. Parfois, c'est l'altruisme qui plaît. Notre monde qui souffre a besoin d'aide et le positionnement que veut prendre l'Église dans ce domaine social rend admiratif. Parfois même, c'est la théologie qui intéresse. Il y a des intellectuels qui vont chercher à comprendre la différence entre protestants et catholiques, entre évangéliques et protestants, entre baptistes et évangéliques. Et ils peuvent être bien renseignés, poser des questions intéressantes et parfois même auxquelles on n'a pas toujours les réponses, parce que fort pointues. Et nous pouvons avoir la tentation d'appuyer là où ça plaît au monde. Que ce soit la spiritualité, l'aide sociale, la théologie ou que sais-je, ce sont de bonnes choses, mais aucune d'entre elles ne doit faire oublier ce qui est réellement important, ce qui nous rattache à Dieu, la croix. Et pour nos contemporains, la croix reste une folie. Les athées ne comprennent pas comment une croix ensanglantée peut amener à un Dieu d'amour. C'est juste pas logique. Les musulmans ne peuvent pas admettre qu'un grand prophète comme Jésus meure d'une façon aussi indigne. Les bouddhistes déduisent que pour mourir ainsi, le karma de Jésus devait être bien faible et qu'il ne peut nous être d'aucune aide, qu'il n'y a rien à attendre de lui. Oui, aujourd'hui encore, la croix reste une folie. La croix, c'est un fait historique, une information annoncée, passée de l'un à l'autre et à laquelle on doit répondre par la foi. Ce n'est pas sagesse, ce n'est pas sexy, ce n'est pas ce qui plaît au monde. T'as pris de l'avance, Elliot. Aujourd'hui encore, le monde se... si tu peux remettre en arrière, en fait. Ouais, encore. Voilà. Aujourd'hui encore, le monde se divise en deux catégories. D'un côté, Dieu et son invitation à croire en la croix. Et de l'autre, le monde qui est fier de sa sagesse. Je citerai à nouveau Robert Somerville. La foi ne peut en aucune façon être assimilée à une sagesse. Elle est au contraire renoncement de toute prétention à la sagesse. Sans ce renoncement, tant qu'il croit pouvoir se fier à sa sagesse, l'homme ne peut que rejeter le message de la croix parce qu'il lui paraît folie. Cette folie est pourtant la sagesse de Dieu, le moyen qu'il a choisi pour sauver les humains. C'est en cela que la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu plus forte que les humains. Alors, Dieu ou le monde, folie de la croix ou sagesse des hommes ? Ou plutôt, puissance de la croix ou sagesse des hommes ? Quel chemin suis-tu ?